France Inter, franceinter.com.
N'ayez jamais peur de l'aventure. Partez, allez conquérir d'autres espaces, d'autres espérances. Le reste vous sera donné de surcroît. Henri de Montfrey. Mille ans d'histoire. J'ai vécu au moins quatre vies, disait Henri de Montfrey, peu de temps avant de mourir, presque centenaire en 1974. Quatre vies et même plus, racontées à plusieurs générations de lecteurs qui, en lisant ses romans, ont traversé avec lui la mer Rouge et l'océan Indien, parcouru l'Éthiopie, la Somalie, le Yémen, et découvert des lieux et des ports dont les noms font encore rêver. Moka, Obok, Djibouti, les îles d'Alahak, les Seychelles ou le golfe d'Aden. Car cet employé banal de la société Magie, devenu du jour au lendemain pêcheur de perles, trafiquant d'armes et de drogue et même espion, avait le don de faire partager le goût de l'aventure qui l'avait poussé un jour en Afrique. On l'écoute en 1936 présenter le film « L'esclave blanc ». C'est le plus vieil enregistrement de la voix d'Henri de Montfrey.
Vous qui rêvez aventure dans une vie peut-être trop monotone, laissez-vous conduire à travers cette brousse africaine où j'ai traîné ma chance pendant près de 30 ans. Tout ce que vous verrez est vrai. Vous irez sur les bords du fleuve Jouba. Vous verrez les femmes somalies allant puiser de l'eau à l'abri des claies de branchages dressées contre l'invisible présence des crocodiles. La terrible danse du couteau, la djembia, arme favorite des Somalis, grande lame à double tranchant. Mais, assez bavardé, il est temps maintenant de vous laisser partir à travers cette brousse sauvage de la Somalia, vous en allez sur les ailes merveilleuses du son et de la lumière.
Guillaume de Montfrey, bonjour.
Bonjour.
C'était la voix de votre grand-père en 1936, c'est pour ça que l'archive était difficilement audible, qu'il fallait tendre l'oreille. Mais c'est une voix que l'on retrouve aussi dans des entretiens avec Paul Guimard enregistrés en 1956 et qui viennent d'être édités dans un coffret de 3 CD dont le livret, dont vous avez écrit en partie le livret, et vous y rappelez que Henri de Montfrey était un écrivain, un aventurier, mais aussi une voix et une voix, dites-vous, que l'on n'oublie jamais.
C'est vrai, c'est une voix qu'on n'oublie jamais parce qu'elle a une manière de parler, de capter l'attention des gens que je trouve incroyable. Et même moi, qui suis tombé dedans, si j'ose dire, quand j'étais petit, j'arrive
vous
pas à m'habituer. Ah ben comment, je m'en souviens.
Non, mais indépendamment des enregistrements qu'on entend.
Oui, tout à fait. C'est une voix, je vous dis, c'est vraiment une voix qu'on ne peut pas oublier. Et je ne suis pas le seul, hein.
Alors une voix que l'on va entendre tout au long de cette émission et celle que l'on entend maintenant, enregistrée donc en 1956, quand Henri de Montfrey racontait à Paul Guimard les premières années de sa vie passées dans l'Aude où il est né en 1879.
J'avais en moi tout de même des aspirations spéciales qui me sont venues dès l'enfance. J'ai été élevé dans un petit coin du golfe du Lion, au Cap Le Hecate, sur une petite presqu'île qui fut longtemps une île, pays de vignes et d'amandiers, de murs de pierres sèches, où souffle un vent impitoyable. Et là, j'étais tout seul, je n'avais aucun petit camarade, mes grands-parents m'élevaient. Je suis resté jusqu'à l'âge de 6 ans sans rien connaître d'autres amis que le vent. Je jouais avec lui, je lui prêtais une âme quand j'en prêtais à toute chose. Eh bien, c'est là que m'est venu ce désir d'aventure, si vous voulez appeler cela ainsi, mais le désir de me confondre avec tous ces petits dieux que je mettais dans toutes les choses.
Me confondre avec ces petits dieux que je mettais dans toutes les choses, c'est presque de l'animisme, c'est de la proximité en tout cas avec de la nature qui aurait poussé votre grand-père Henri de Montfrey à l'aventure, c'est ce qu'il dit dans cet extrait.
Oui, parce que finalement, c'est un homme assez solitaire. Et on ne peut pas vivre, si vous voulez, la solitude en dehors du monde. Et donc, il est vraiment dans le monde. Et c'est vrai, c'est ça, cette osmose tout à fait extraordinaire, parce qu'on a affaire aussi à quelqu'un d'extrêmement sensible, qu'il a traduit toute sa vie à travers des quantités de manières différentes, c'est-à-dire l'écriture, la peinture, la photographie. Et là, on l'entend avec cette voix, vous voyez, qui est tout à fait captivante. Mmh. Et qui sait en plus, comment dirais-je, prendre son temps, voyez, choisir ses mots, articuler des choses et capter votre esprit. Et on a l'impression que soi-même, pour soi-même, le, comment dire, l'animisme qu'il professe est presque le nôtre.
Alors vous avez évoqué d'ailleurs son goût pour la peinture qu'il a très tôt, puisque son père, auprès duquel il vit, à Le Cat, lui fait découvrir les peintres.
Eh bien oui, si vous voulez, Henri, à cette époque-là, il naît dans un univers artistique indéniable.
Gauguin.
Gauguin, mais il n'est pas le seul. Si vous voulez, Henri a certainement vu Matisse, Maillol. On les oublie trop, ces gens-là, mais Maillol est quelqu'un de là-bas, de Perpignan, de Bagnols, exactement. Matisse est venu souvent. Donc si vous voulez, tout cet univers, et puis quand ils sont venus habiter à Paris, c'était pareil, tout cet univers lui entre par tous les pores, si vous voulez. C'est impossible d'y échapper.
Un goût pour la peinture qui doit être génétique, d'ailleurs, Guillaume de Montfred, puisque vous avez publié aux Presses de la Renaissance Sur les pas d'Henri de Montfred, et en fait, c'est à partir de vos propres dessins, de vos propres aquarelles, que vous racontez la vie de votre grand-père.
Oui. Mais moi aussi, si vous voulez, je suis tombé dedans de la même manière, donc impossible d'y échapper.
Alors, un goût pour la nature, en tout cas, qu'avait Henri de Montfred, mais qui est contrarié par les débuts d'une vie qui l'ennuie, aussi plate, disait-il, qu'un champ de betteraves. Alors, une première femme avec laquelle il ne s'entend pas, des études d'ingénieur et un échec à l'école centrale, et puis des petits boulots étonnants quand on sait ce qui suivra plus tard, colporteur, chauffeur de maître, et même contrôleur de la qualité du lait à la société Magie.
Eh oui, parce que, si vous voulez, c'est ça toute la contradiction. Sa mère espérait pour lui un destin, je dirais, d'ingénieur. Et comme il respectait infiniment sa mère, il s'est pris un devoir de, pendant 30 ans, d'essayer d'arriver à cet objectif. Mais évidemment, son caractère était totalement différent, ce qui fait que même s'il est, je dirais, pour partie arrivé, le caractère a fait surface. Et chez Magie, ça a fini très mal, puisqu'il a un peu traficoté déjà le lait. Hein, ouais. Et pour avoir de la liberté, en fait. Et on l'a congédié immédiatement.
Il y a aussi quelque chose qui a compté, c'est une maladie dont, d'ailleurs, j'ignorais l'existence et les symptômes, qui s'appelle la maladie de Malte,
dont il a failli mourir. Il a été malade presque 8 mois avec ça. Et c'est vrai que je pense que c'est la station allongée, avec fièvre, etc. Donc il était vraiment allongé. A dû quand même pas mal le faire réfléchir. Et c'est là qu'il a évacué, si vous voulez, tous ses désirs de vouloir devenir, comme il disait, un parfait petit épicier de Montrouge. Fin de citation. Voilà. Et c'est là qu'il envoie tout promener, en fait.
D'abord, il se sépare de sa femme. Et puis alors, il rencontre une étudiante allemande qui deviendra sa deuxième femme, Amgard Freudenfeld.
Vous savez, Amgard, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. C'est une sensation curieuse. Votre vie défile sous vos yeux et vous vous dites, si je devais mourir là, maintenant, est-ce que je serais fier de ce que j'ai vécu?
Alors?
La réponse est non. Jusqu'à présent, j'ai tout raté. C'est pour ça que je vais partir. Le plus loin possible. Oxus, 12 août 1911. La mer est stupidement calme. Quant aux troisième classe, nous avons des préjugés car on y est fort bien. Sauf peut-être l'inconvénient d'être 6 par cabine.
Alors ça, c'est le grand tournant dans la vie de votre grand-père, Guillaume de Montfred. Ouais. Il s'en va en 1911, il plaque tout, il quitte l'Europe, il va en Afrique, il y restera 30 ans avec quelques petits retours en Europe. Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui l'a fait partir? Comme ça, on a l'impression finalement qu'il fuit, vous le disiez, un monde qu'il n'aime pas, mais pour en découvrir un qu'il ne connaît pas encore.
Mais qu'il ne connaît pas du tout, et sur lequel il n'a aucun a priori. Alors c'est vrai qu'il faut replacer ça dans son contexte. En 1911, on est dans la grande époque coloniale, d'expansion coloniale, d'où des quantités de Français partent aux colonies. Et Henri fait comme eux, et il va sur la foi d'un vague renseignement, je dis bien vague renseignement, d'un boulot en Abyssinie, de commis de factory, où il doit payer son billet, c'est-à-dire c'est même pas l'employeur. Donc il y va comme ça, mais vraiment, ça aurait pu être l'Indochine, Madagascar ou le Maroc, voilà. Donc Le but était vraiment de quitter l'Europe.
Voilà. Et puis de quitter le troupeau, c'est une formule d'ailleurs qui venait souvent chez lui.
Toujours.
Il y a pas mal de misogynie, en tout cas vis-à-vis des Européens.
Oui, oui. Je ne sais pas si c'est la misogynie, c'est une espèce de xénophobie, effectivement, par rapport aux Européens. Parce que c'est ce côté moutonnier, mouton de panurge, qui ne supporte pas. Mmh. En fait, il ne peut pas concevoir qu'un homme, ou une femme d'ailleurs, puisse vivre sa vie sans la diriger. Et ça, il ne peut pas comprendre. Mmh. Et ça l'insupporte. Alors, pour lui-même comme pour les autres. Il exige des autres ce qu'il exige de lui-même.
Et quand il fuit l'Europe, ce n'est pas du tout pour la retrouver. D'ailleurs, les rapports avec les Européens de Djibouti, où il arrive en 1911, ne sont pas très bons.
Bah non, c'est même plutôt mauvais, parce que vous imaginez ce que peut être un Européen à Djibouti. Donc, c'est la coloniale, avec le gouverneur, le procureur. Enfin, des gens, si vous voulez, qui ont fait leur trou, hein, ou qui essayent de le faire, parce que Djibouti est une ville neuve à cette époque-là. Et Henri, lui, là-dedans, il essaie de faire son trou à sa manière, ce qui déplaît forcément.
Et il préfère la compagnie des autochtones. On l'écoute justement dans un autre extrait de ses entretiens avec Paul Guimard en 1956.
Arrivé là-bas, j'ai été un peu choqué de l'attitude des Européens vis-à-vis de l'indigène qu'ils considéraient avec le plus profond mépris. Alors que spontanément, j'avais une sympathie pour ces gens-là, peut-être à cause du mystère qui plane sur eux. Ce sont des Arabes du Yémen, des Somalis, des Dankalis. Ils vivaient là comme des oiseaux de mer sur leur nid, ne débarquant jamais. Ces petits voiliers que je voyais mouillés sur la rade. On savait qu'ils achetaient des armes pour porter dans des pays où les Européens ne pouvaient pas pénétrer. Et c'est précisément parce qu'ils ne pouvaient pas y pénétrer que je me suis mis en tête d'y aller. Mais pour y aller, il fallait être accepté. Je me suis fait musulman et je suis parti avec un petit équipage de 3 hommes dans la mer Rouge pour vendre une douzaine de fusils.
Et c'était le début d'une aventure extraordinaire, mais aussi, on vient de l'entendre, Guillaume de Montfred, c'était le début d'une métamorphose, parce que non seulement il s'intéresse plus aux populations locales qu'aux Européens qu'il retrouve à Djibouti, mais il se fond dans la population, au point d'ailleurs d'adopter, on vient de l'entendre, la religion musulmane.
Oui, oui. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant de ce personnage, qui, sans renier ses origines européennes, arrive à se fondre dans le milieu local, pour mieux le comprendre, pour mieux l'aimer aussi, parce qu'on l'oublie, trop fréquemment. Bien sûr, il y a une dimension, d'intérêt. Et c'est ça qui fait l'étonnant du personnage. Et alors, c'est une mutation qui vient très vite, qui vient très, très vite. Parce que dès qu'il arrive à Djibouti, en Abyssinie, en 1911, au bout de quelques mois, il avoue lui-même avoir été transformé. C'est-à-dire qu'à la limite, il est étonné de cette transformation. Et c'est très étonnant de voir l'espèce d'adéquation, de corrélation qu'un pays peut donner sur quelqu'un. Je pense à ce journaliste français qui était né en Indochine et qui avait fini français et qui avait fini par avoir la tête d'un Chinois. Vous voyez, donc on retrouve un peu cette espèce d'osmose avec Henri et ces pays-là. C'est tout à fait surprenant.
Plus de casque colonial, mais
un turban. Évidemment.
La religion aussi, c'est absolument stupéfiant. Il prend d'ailleurs le nom de Abdelhaï, c'est-à-dire esclave du vivant.
Oui, esclave de Dieu, si vous préférez.
Mais pour quelle raison cette conversion? Est-ce que c'est parce qu'il y croit?
Non, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Parce qu'on ne peut pas vraiment parler de conversion. Je pense qu'on peut parler d'opportunisme. Et puis, il faut avouer aussi que la religion, peut-être telle qu'il la pratiquait, l'islam tel qu'il le pratiquait, était relativement simple et probablement correspondait assez bien à ses idées animistes dont on a parlé au début, c'est-à-dire des choses simples qui sont, par rapport à la théologie, disons, de la région catholique dont il était issu, quelque chose d'extrêmement différent et qu'il peut pratiquer partout, en mer, comme dans le désert ou dans une tempête, si vous voulez. Donc finalement, ça marchait assez bien. Et puis surtout, vis-à-vis de ses matelots, c'était quand même indispensable.
Oui, de ses matelots, oui. Et puis des pays qu'il allait voir, qui étaient souvent interdits aux non-musulmans,
absolument,
je pense au Yémen.
Absolument, mais je pense d'abord aux matelots, pour former une équipe. Parce que, mine de rien, même si c'est quelqu'un qui est un individualisme forcené, et forcené, le terme est faible, c'est quelqu'un qui sait aussi respecter les autres. Et je crois qu'il y a, je ne veux pas dire de politesse, parce que ce n'est pas de la politesse, mais il y a un respect de l'autre à adopter sa manière de vivre. C'est toute l'inculturation, si vous voulez, d'Henri dans ces pays-là.
Et des matelots avec lesquels il va d'abord pêcher des perles.
Oui.
Ça devait le changer quand même des lettres magie.
Certes, ça lui changeait beaucoup des lettres magie, mais ça reportait aussi beaucoup plus gros à l'époque où les perles étaient encore des perles fines, sauvages, si vous préférez. Le problème, c'est que lui, quand il se lance là-dedans, c'est au moment où les Japonais découvrent la perle de culture.
De culture.
Donc, évidemment, les marchés s'effondrent et personne ne veut de ces perles, en fait.
Alors, autre activité qui lui sera reprochée, parce qu'elle est illicite, en tout cas on va le soupçonner pour cette raison d'être plus ou moins à la solde de tel ou tel, c'est le trafiquant d'armes.
Eh oui, le contrebandier d'armes, en fait.
On l'a entendu d'ailleurs en parler.
Oui, mais bien sûr. Alors pourquoi est-ce qu'il est contrebandier ? Eh bien parce qu'en fait, cette vente d'armes, elle est parfaitement légale, mais il n'a pas le droit de la vendre à certains pays. Et d'ailleurs, ce sont les douaniers français qui rabotent les caisses d'armes elles-mêmes pour qu'on ne sache pas d'où elles proviennent. Et officiellement, elles doivent aller au Yémen, du côté de Makalla. Bon, on peut faire un voyage par an, pratiquement, hein, à cause de la mousson. Mais Henri ne va pas les vendre là, c'est évident. Et là est la contrebande, c'est-à-dire que la contrebande, c'est le destinataire. Et évidemment, ça insupporte les autorités françaises, bien que tout le monde le sache, et ça insupporte encore plus les autorités anglaises, puisque ces armes risquent de se retourner contre eux.
Voilà. Et alors, on lui demande aussi de faire de l'espionnage, pendant la Première Guerre mondiale notamment, voir les positions turques de l'autre côté de la mer Rouge.
Oui, alors là, si
vous... les photographier.
Absolument. Et là, je dirais, c'est un peu un double langage qu'utilise Henri, parce qu'effectivement, il rend service à la France en allant espionner et en donnant des informations sur les troupes turques qui commandent le détroit de l'entrée de la mer Rouge, Bab el-Mandeb. Et puis aussi, il y va pour ses propres intérêts, c'est-à-dire pour aller voir un peu qu'est-ce qu'il peut faire, lui, et comment il peut naviguer dans ces régions-là. Mais évidemment, c'est à ses risques et périls. Hein. Au moindre pépin, le gouverneur ne le connaît pas, ça c'est évident. Mais je dirais que cette dimension d'espionnage est quand même à rattacher à un certain réel patriotisme. Quand on voit les premières lettres qu'il a écrites en 1914 au moment de la guerre, son premier réflexe, s'il n'avait pas eu tous les problèmes financiers énormes auxquels il a été confronté, c'était de partir au front comme son ami Lavigne.
Alors, autre activité, alors là, celle-là, cela dit, je ne crois pas qu'elle était illégale à l'époque, mais on en a beaucoup parlé, bien sûr, parce qu'en plus, il était commerçant et pratiquant, si je puis dire, c'est le trafic de la drogue qu'il va chercher, qu'il va lui faire traverser le Sérénia, qu'il va chercher en Inde.
Voilà. Alors, effectivement, le hashish est parfaitement légal à cette époque-là. Il prononce une première cargaison en Grèce, en fait, parce que le chanvre qui produisait ça est poussé en Grèce. Et devant le succès de ce trafic au sens 1914, ça veut dire commerce. Hein. La guerre éclate, il ne peut plus aller acheter son hashish en Grèce, donc il va l'acheter en Inde où c'est légal. Alors là aussi, c'est légal, mais il contourne un petit peu la loi parce qu'au lieu d'en acheter 5 grammes, il en achète 10 tonnes. Mais si vous voulez...
vous appelez ça un peu.
Oui, je dis ça un peu parce qu'en fait, il peut revendre. Enfin bon, il trouve le moyen pour que ça passe quand même. Il arrêtera d'ailleurs ce trafic à la fin des années 20, quand ce sera déclaré substance illégale, si vous voulez, sur Terre.
Alors, en tout cas, des activités plus ou moins licites, et plutôt d'ailleurs moins que plus.
Toujours à la marge, oui.
Et dont personne n'avait jamais entendu parler avant la publication de son premier roman, en 1931, Les secrets de la mer Rouge, une vocation d'écrivain tardif, puisqu'il avait alors 51 ans.
Peu à peu, je me suis dit... Où iront tous ces beaux souvenirs? Où iront tous ces enthousiasmes? Que deviendra cela quand je n'existerai plus? Alors, j'ai donné un sens à ma vie. J'ai voulu me survivre. Me survivre en l'esprit de tous ceux qui partageront les émotions de ma vie et tout ce qui en fit la beauté. J'ai pris des notes. Je n'avais nullement la prétention de faire un écrivain. Je voulais seulement que mes enfants puissent un jour savoir ce que fit leur père. Et voilà pourquoi, malgré mon âge, il me semble toujours vivre dans ce milieu que j'ai tant aimé, et j'entends toujours la mer gronder autour de moi, comme on écoute au creux d'un coquillage qui conserve en lui toujours, éternellement, la rumeur de la mer, le souvenir.
Le corsaire, le grand coureur, est un navire de malheur. Quand il partit en croisière pour aller chasser l'anglais, le vent, la mer et la guerre tournent contre le français. Il partit de l'Orient par belle mer et bon vent. Il voguait tribord Tamur, naviguant comme un poisson. un grain tombe sur sa mâture, et v'là le corsaire en poteau.
Et oui, de toutes les activités, il y en a une dont on n'a pas parlé, de votre grand-père, il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est qu'il chantait. Vous avez même chanté avec lui, je crois, Guillaume.
Mais oui. Il aimait énormément la musique, il jouait beaucoup de piano. Ce qui faisait d'ailleurs que c'était assez étonnant parce que moi j'ai essayé de jouer la clarinette avec lui. Et là c'est très difficile parce qu'il accordait son piano avec un la qui n'appartenait qu'à lui. Alors évidemment la clarinette, tout le monde sait que c'est pas facile, ça ne s'accorde, hein, ça s'accorde pas comme ça. Donc ça a donné des choses tout à fait étonnantes. Et d'ailleurs c'était drôle parce que quand on était ensemble justement, lui remontait, si vous voulez, des souvenirs qu'il avait quand lui-même avait le même âge, c'est-à-dire des souvenirs qui en fait avaient 70 ans. Et en l'occurrence c'était toutes les chansons qu'il chantait donc dans les années 1895 ou 1900, des chansons d'étudiants, et c'était tout à fait étonnant.
Alors cela dit, ce que l'on connaît mieux, le Henri de Montfred qu'on connaît le mieux, c'est évidemment l'écrivain. Alors on l'a entendu, vocation extrêmement tardive. Certes, il écrivait beaucoup, il écrivait des lettres, mais enfin, elles étaient destinées à sa famille. Et là, c'est un homme, un de ses amis, rencontré en 1930, qui va l'initier, qui va le lancer dans la littérature. C'est Joseph Kessel, Guillaume de Montfred.
Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs un des très, très grands mérites de Joseph Kessel, même si d'autres avaient déjà été, je dirais, un petit peu au courant de l'existence de ces lettres. C'est Kessel qui va le propulser dans ce monde-là. Mais quand je dis propulser, c'est-à-dire être le moteur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Henri ne croyait pas à l'écriture. Pas du tout. Il croyait même pas à son don. Alors que son père le lui avait écrit dans une des toutes premières lettres que Georges Daniel reçoit, dans les années 1911-1912, quand Henri lui raconte ses premières expériences en Abyssinie. Georges Daniel, son père, dit « mais il a un talent d'écrivain ». Vous voyez, c'est quelque chose qui restait dans la famille, mais qui était très ancien. Et en fait, c'est Kessel qui, par son enthousiasme, si vous voulez, l'a convaincu de le faire.
Je n'avais pas la prétention de faire l'écrivain, on l'a entendu le dire tout à l'heure. Je ne suis pas écrivain puisque je n'invente pas. Non. En réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il raconte sa vie, ses vies. Oui. Alors avec tout de suite, ça a du succès. Le secret de la mer Rouge, son premier grand livre, un succès énorme. Il y en aura 70 comme ça, La croisière du hashish, La poursuite de Caïpan, Pilleur d'épave. Et alors, livre qu'il continue d'écrire, lorsqu'il revient en France en 1947, il s'installe à Ingrandes. Donc dans le Berry, et alors là il garde des habitudes exotiques, hein, même si elles sont illicites.
Tout à fait, parce qu'on ne peut pas dire qu'Ingrandes dans le Berry soit vraiment une terre très africaine, quoique figurez-vous qu'ils ne le savaient pas quand ils ont acheté la maison, à 10 km de là il y a l'étang de la mer Rouge, et il n'y croyait pas du tout. Bon, c'est donc, vous voyez, le hasard n'existe pas finalement.
Et il n'y pousse pas d'opium, de pavot.
Non.
Or, on en trouve. La police arrive, il a 70 ans. Vient, elle perquisitionne et elle trouve de l'opium.
Elle trouve de l'opium, absolument, parce que mon grand-père le faisait peser chez l'épicière, qui est toujours là d'ailleurs, à Ingrandes, par petite dose de 5 grammes pour ne surtout pas dépasser, surtout pas dépasser la dose.
Oui. Mais il en prenait avec du miel. En tout cas, c'est ce qu'il disait à la police, c'est ça?
Oui.
Parce que c'était bon pour sa santé. Alors, cette santé, quand même, elle n'est pas mauvaise, puisque en 1958 encore, il a 80 ans et il part en direction de l'île Maurice. Il prend un bateau à voile et là, il disparaît en mer.
Oui, et c'est là que je le connais. C'est-à-dire le jour où il disparut. Oui. Moi, j'étais à La Réunion, nous étions à La Réunion, donc je n'avais jamais ni vu ni entendu parler de mon grand-père. Et au moment où on me dit qu'il arrive, il disparaît. Donc j'ai commencé par avoir un grand-père vide, si j'ose dire. Et cette aventure, c'était quoi? En fait, c'était partir de La Réunion à Maurice pour aller faire une conférence là-bas. Mais sauf qu'ils sont partis, je dirais, un peu comme des gamins.
Et finalement, on les a retrouvés.
Nous avons retrouvé Henri de Montfred et ses trois compagnons qui viennent de vivre des heures tragiques pendant 10 jours en plein océan. Cher monsieur de Montfred, quelques mots sur ce voyage qui faillit se terminer tragiquement.
Vous n'avez jamais désespéré de la situation. Vous étiez persuadé de retrouver la côte de Madagascar.
Maintenant que me voilà arrivé, je ne désespère plus. Mais je vous avoue qu'à certains moments, je me suis demandé où nous allions. Lorsque j'avais peur que les pauvres gars qui étaient avec moi me flanchent. D'abord, ils n'étaient pas marins. Et ensuite, il fallait les soutenir. Et nous avions des nourritures plus qu'illimitées. Et c'est un brave gendarme qui nous a aperçus et qui a immédiatement alerté, je crois que c'est la passe de...
Ça doit être
Tananarive. Le fait est que 3 heures après, un avion nous survolait.
aventurier jusqu'au bout, il prend des risques jusqu'au bout. Il a 80 ans hein, au moment où on le retrouve et quand on l'entend comme
absolument,
ça.
Absolument, absolument. Il prend des risques si vous voulez, mais alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est un personnage qui est quand même extraordinairement gamin. Quand je dis gamin, c'est-à-dire qu'il prend des risques en fait sans penser en prendre, tout simplement pour se faire plaisir. Alors, se faire plaisir, je vais vous donner une toute petite anecdote qui me concerne. C'est qu'un jour, j'arrive chez lui, il est d'une demeure massacrante parce qu'il ne peut pas aller à une signature. Alors, c'est trop loin pour y aller à pied, c'est trop près pour demander un taxi, il ne peut pas y aller en métro, il est en retard, enfin tout. Et moi, innocemment, je lui dis « Mais si tu veux, grand-père, je t'emmène. » Le problème est réglé dans la demi-seconde. Il part avec moi et je l'emmène sur ma moto. Il avait 92 ans. Vous imaginez la tête du libraire qui devait le recevoir et qui voit arriver ce très très vieil homme qui avait dépassé l'âge de la vieillesse et qu'il voit descendre une énorme moto. En plus, à l'époque, on n'avait pas besoin de casque. Donc, vous imaginez le paysage. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui reste extraordinairement libre de ses actes et de ses actions. Et c'est ça qui est, je dirais, aujourd'hui un exemple un petit peu pour nous. Et c'est ça, d'ailleurs, qui fait qu'on le lit encore. C'est ça qui rend son témoignage, si vous voulez, très intéressant, parce que à travers ses écrits, il insuffle aux gens une espèce d'énergie qu'on croit oublier. Et par l'intérieur, il arrive à nous réveiller. Et c'est ça qui fait qu'il est toujours contemporain. Alors évidemment, ses histoires sont anciennes, mais qu'importe. L'esprit est toujours là.
Oui, parce que justement, bon, d'abord, si on veut, parce qu'il s'adressait à une génération, à même à plusieurs générations du XXe siècle qui ont tous lu ses livres. Je ne sais pas d'ailleurs par lequel il faut commencer si on ne connaît pas Henri de Monfrède, Guillaume de Monfrède.
C'est vrai, on peut se poser la question. Bon, effectivement, on peut commencer par Les Secrets de la Mer Rouge, qui est son histoire romancée. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a peut-être une approche plus intimiste de l'homme. Et je pense que Aventures extraordinaires, qui sont donc un recueil de ses lettres et de ses journaux de bord, peuvent peut-être passionner un peu plus. Enfin, non pas plus, mais disons différemment, nous parler mieux aujourd'hui. Parce que c'est une écriture qui est très, très personnelle, où le personnage dit « je » et où il vous écrit « à vous ou à toi qui écoute ou qui lit. Et donc, du coup, s'établit une relation tout à fait extraordinaire. Et c'est totalement irrésistible.
Est-ce que ce n'est pas un peu daté? Alors là, vous citez par exemple sa correspondance, ses journaux de bord, qui ont été d'ailleurs édités il y a peu de temps hein, chez Artaud, Aventures extraordinaires. Hein, il y en a eu quand même 70, il y a une production inconsidérable.
Il y a eu des années où il a écrit 6 livres. Ouais. À se demander s'il arrivait à se relire.
Est-ce que c'est pas un peu daté aussi, parce que c'est des aventures que, bon, certes, tout le monde ne les a pas vécues, au contraire, au XXe siècle, c'est l'aventurier du XXe siècle, c'est un peu un modèle, mais est-ce qu'aujourd'hui ça peut être un modèle pour un jeune d'aujourd'hui? Et est-ce que c'est pas un peu daté tout ça?
Écoutez, je pense que ça peut être un modèle dans ce sens où il faut effectivement s'attacher à l'esprit plus qu'à la lettre, mais quand on parle d'actualité, il suffit de se souvenir de ce qui vient de se passer avec le Ponant, hein, ça n'a pas plus de 15 jours. Et de quoi s'agit-il? En fait, d'un abordage et d'actes de piratage. Eh bien, Henri a déjà vécu ça. Lui-même était la victime, d'ailleurs, à l'époque, dans les années 1915. Donc,
il n'aurait pas pu être le pirate?
Non, je ne pense pas. Avec parce que c'était sommes. Pas... Oui, c'est vrai que, bon, on le dit, disons, pour s'amuser, mais je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Mais voyez, avec le Ponant, on est vraiment dans l'actualité, parce qu'il décrit ça très, très bien.
Ben, comme vous le faites vous-même, Guillaume de Monfrède, dans ce livre sur les pas d'Henri de Monfrède, c'est-à-dire votre grand-père, publié aux presses de la Renaissance et illustré par des dessins et des aquarelles extraits de vos carnets de voyage. Vous êtes également l'auteur de Normandie Extrême, Voyage à la pointe de la Hague, aux éditions Isoët, avec des photographies d'Alice de Monfrède. Je recommande également un coffret dont on a entendu deux extraits aujourd'hui, avec trois CD d'entretien avec Paul Guimard. Ce coffret est intitulé Henri de Monfrède, les chemins de l'aventure, accompagné d'un livret auquel vous avez participé, Guillaume de Monfrède, et édité par Lina et Radio France. Vous avez pu en entendre un extrait du téléfilm Lettres de la mer Rouge d'Éric Martin et Emmanuel Cossé, diffusé sur Arte en 2006. Et vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Céline Bonhomme et Axel Brizard, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Anne-Cécile Perrin, une réalisation de Séverine Cassard.